La revue de presse internationale, bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Et pour commencer, direction la Chine, Thomas, qui hausse le ton face au courant anti-Pékin à Hong Kong.
Oui, une loi sur la sécurité nationale destinée aux territoires semi-autonomes secouée l'an dernier, vous vous en souvenez, par un colossal mouvement de protestation doit être étudiée aujourd'hui même durant la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire qui est ouverte ce matin à Pékin. Or, le Parlement étant essentiellement une chambre d'enregistrement, la future adoption de ce texte fait peu de doute, ou quand Pékin s'apprête donc à passer en force à Hong Kong, écrit The South China Morning Post, cité par le courrier international. Alors tout d'abord, que dit cette législation ? Elle ouvre la voie à l'interdiction de tout acte de trahison, de sécession et de subversion sur le sol hongkongais. En d'autres termes, si cette loi est aujourd'hui controversée, c'est évidemment parce qu'elle porte atteinte à la liberté d'expression à Hong Kong, mais pas seulement, puisqu'elle remet en cause, au fond, le principe qui prévaut actuellement d'un pays, deux systèmes. Ce qui d'ailleurs fait dire à un député pro-démocratie hongkongais dans les colonnes du Guardian ce matin, c'est la fin de Hong Kong. La Chine prépare une attaque en règle contre les libertés civiles qui réduira à peau de chagrin les derniers vestiges d'autonomie de l'ancienne colonie britannique, renchérie pour sa part. The Independent, quant au Financial Times, il s'inquiète à sa une de ce qu'en imposant cette loi, la Chine ne relance les protestations antigouvernementales qui, interrompues en raison de la pandémie, approchent qui plus est de leur premier anniversaire. À l'inverse, et comme attendu, le quotidien chinois pro-gouvernemental China Daily étrille lui toutes les critiques et assure même que l'adoption de cette loi garantira la stabilité et la prospérité de Hong Kong. Enfin, The South China Morning Post rappelle pour sa part qu'en 2003, déjà, un premier coup de force avait été initié par Pékin, provoquant aussitôt la descente dans les rues d'un demi-million de personnes, et c'est aussi la raison pour laquelle le dossier avait fini par être mis de côté. Dès lors, qu'est-ce qui a bien pu changer pour que le pouvoir central ne cherche à nouveau à faire adopter son texte, coûte que coûte ? Réponse, échaudé par le succès de la contestation l'an dernier, mais aussi le triomphe du camp pro-démocratie aux élections locales, il semble en réalité que les autorités chinoises ne craignent avant toute chose un nouveau raz-de-marée lors des élections législatives prévues en septembre prochain.
Et quand la presse étrangère s'intéresse désormais à une redoutable passion française, Thomas.
Oui, comprenez la politique, évidemment, voire les batailles politiciennes. Avec cette question, quand la France doit-elle retourner aux urnes pour le second tour des municipales ? Le gouvernement s'apprête, vous le savez, à trancher la question aujourd'hui. Deux hypothèses essentiellement sont évoquées, un scrutin le 28 juin ou bien le report bien plus tard, au tout début de l'année prochaine, car avant cela, précise le correspondant du quotidien suisse, le temps entre le renouvellement partiel des sénateurs, la rentrée scolaire et le débat budgétaire, eh bien les échéances seraient probablement très compliquées. Alors, précisons tout de suite que beaucoup de maires souhaitent aujourd'hui sortir rapidement de l'impasse dans laquelle les a plongés la crise du coronavirus, rappelle le journal espagnol La Voz de Galicia. Il n'empêche, l'enjeu est de taille, reprend donc l'éditorialiste du Temps. Et pourquoi ? Parce que le risque, selon lui, serait de laisser le spectacle politique reprendre en otage un pays convalescent. Or, tandis que l'heure devrait être au compromis national pour relancer l'économie mise à terre, voilà que le jeu de massacre électoral réapparaît déjà à l'horizon. Sans compter qu'un retour aux urnes différé aurait en plus le mérite de la clarté, car en l'occurrence, à la fin juin, rien ne sera clair. Le risque d'une seconde vague épidémique rôdera toujours, et que dire encore de l'état d'urgence avec les restrictions qu'il impose aux libertés de réunion, il ne permettra pas davantage de tenir une campagne digne de ce nom. Enfin, plus grave encore, organiser le seul second tour 3 mois après le premier fait aujourd'hui peser un risque réel sur la sincérité du scrutin, insiste encore le journal, avant de préciser, ne serait-il pas plus logique dans les communes où les maires n'ont pas été élus au premier tour de remettre les compteurs à zéro et de prévoir à nouveau 2 tours de scrutin. Quoi qu'il en soit, conclut l'éditorialiste, le mieux serait sans doute de laisser se décanter les opinions durant l'été, car dans le cas contraire, dit-il, nul doute que le retour de la discorde politique compliquera un peu plus encore la tâche d'un gouvernement avant tout mobilisé par la reconstruction à la fois économique, sociale et sanitaire. Alors, on le voit, Guillaume, nous sommes bien loin aujourd'hui de connaître tous les ressorts de cette pandémie et encore plus loin de savoir quelle est la bonne approche pour y faire face. En ce sens, il n'y a sans doute pas une bonne stratégie, juste des paris. Je vous laisse toutefois avec une bonne nouvelle ce matin, qui elle ne souffre a priori aucune contestation possible. La volte-face de Boris Johnson ce matin The Eye se félicite de ce que le gouvernement britannique a annoncé hier soir, que les soignants étrangers seraient finalement exemptés d'une taxe annuelle destinée à financer le service public de santé. Jusqu'ici, le Premier ministre avait exclu de les exonérer, et ce malgré leur contribution à la lutte contre la pandémie. Eh bien, face au tollé engendré par cette mesure, qui avait d'ailleurs suscité une levée de boucliers jusque dans les rangs de son propre parti, rappelle à son tour The Daily Mail, Bojo a donc fini par céder.
Merci Thomas Cluzel pour cette revue de presse internationale.